le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et nous sommes toujours à Bordeaux pour ce congrès USH qui se termine là dans quelques heures. Et pour finir en beauté, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Anne-Sophie Graff sur notre plateau. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Vous êtes présidente de CDC Habitat. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que c'est que CDC Habitat, s'il vous plaît?
Alors CDC Habitat, nous sommes un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous intervenons sur toute la chaîne du logement, depuis l'hébergement d'urgence, le trait social, ça c'est avec Adoma. Nous intervenons sur le logement locatif social, sur le logement intermédiaire, l'accession sociale à la propriété, et puis aussi sur des sujets tels que le redressement de copropriétés dégradées ou les interventions également en cœur de ville. D'un point de vue territorial, nous sommes en métropole et également en Outre-mer. Donc nous gérons en tout 500 000 logements et dont quand même 90 000 en Outre-mer. Et puis nous avons, de par la loi Elan, aussi un certain nombre de partenaires autour de groupes avec lesquels nous avons noué ces dernières années des partenariats qui représentent de l'ordre de 35 partenaires et 300 000 logements.
Alors Anne-Sophie, avant justement d'être à Paris, je crois que c'est le 16 décembre 2020 que vous êtes devenue justement directrice, présidente du directoire justement du CDC Habitat. Alors avant, vous aviez aussi un parcours assez riche puisque vous étiez justement notamment directrice des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts, c'est ça. Et puis vous avez continué votre trajectoire dans plusieurs sociétés. Autant dire que vous, le logement, c'est un peu votre vie, hein.
Alors oui, j'ai un parcours assez long, effectivement, dans le secteur du logement et puis notamment dans le secteur du logement social. Donc j'en suis fière et heureuse parce qu'effectivement, on est vraiment sur des sujets en fait de société. L'habitat, un toit sur la tête, c'est un besoin prioritaire. Et donc de pouvoir servir ces missions, mais aussi qui se sont complexifiées au fil des années, parce qu'on attend beaucoup plus aujourd'hui d'un bailleur social peut-être qu'il y a quelques années, parce qu'on est très présent dans les quartiers, donc on est effectivement confronté finalement à toutes les questions de société. On accompagne les parcours de vie de nos locataires, on accompagne les parcours résidentiels de nos locataires. Et donc je pense que c'est pour ça finalement que je suis restée longtemps dans ce secteur, parce que c'est extrêmement enthousiasmant et motivant, même si au quotidien et pour nos équipes, c'est parfois aussi difficile.
Alors justement, je crois que le Covid aussi a changé la donne, dans votre façon de travailler ou même d'aborder votre métier. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et même pour les gens que vous accompagnez au quotidien?
Alors, est-ce que le terme changer est le bon terme? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ça nous a permis de voir déjà qu'on était en capacité d'être extrêmement agile. Et quand je dis ça, nous, notre groupe, mais je pense que l'ensemble des bailleurs sociaux, dire qu'on a su s'adapter extrêmement rapidement. Donc, crise sanitaire, premier confinement, effet de sidération, première observation, l'isolement d'un certain nombre de locataires. Comment on répond à cet isolement? Donc, nous avons mené des campagnes d'appels bienveillants vers les locataires les plus isolés. On avait des partenariats avec des associations, je vais citer Culture du Cœur, qui permettaient à des locataires isolés d'appeler des comédiens, des artistes, et comme ça d'avoir un moment d'exception et de pouvoir un peu s'évader de son logement dans lequel on était confiné. Ce sont aussi des fragilités nouvelles qui sont apparues.
Économiques, fragilité et sociale.
Fragilité économique, fragilité sociale. Fragilité économique puisque dans nos quartiers, bien souvent, on retrouve effectivement les premières lignes, c'est-à-dire des locataires qui travaillent dans les domaines, dans les secteurs de la santé, de la propreté, de la distribution. Donc qui n'étaient pas en télétravail, qui ont parfois été davantage d'ailleurs touchés aussi par le Covid. Oui. Et puis on trouve aussi ce qu'on appelle les actifs nouvellement vulnérables. C'est l'Observatoire national de la politique de la ville qui a mené en fait une étude sur un peu les conséquences de la crise sanitaire sur ces quartiers. Et le constat a été fait, si vous voulez, que sur les personnes en emploi dans ces quartiers, 27% d'entre eux sont des actifs nouvellement vulnérables, alors que sur l'ensemble, on va dire, du territoire national, on est plutôt à 17%. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces actifs nouvellement vulnérables?
Vous ne seriez pas en train de nous parler de la classe moyenne, par hasard?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Vous allez voir.
D'accord.
Non, ce sont des actifs collectifs qui, en réalité, travaillent dans des secteurs tels que la restauration, l'hôtellerie, dans des secteurs qui ont été très impactés, en fait, par la crise sanitaire, et donc nouvellement vulnérables parce que beaucoup plus impactés. Donc, bien sûr, nous avons accompagné nos équipes d'accompagnement social sont venues apporter des solutions, notamment sur le règlement du loyer, donc voilà, des plans d'appurement. Et ça, ça a été fait tout de suite. Tout à l'heure, je parlais des appels bienveillants, c'était pour les personnes isolées, mais c'était aussi pour les personnes, je dirais, en difficulté sociale. Et puis cette crise sanitaire, voilà, puisqu'on en parle, je voudrais aussi adresser un immense merci, bravo à nos équipes de proximité, parce que nous, on avait nos premières lignes.
Bien sûr.
Et nos premières lignes, c'était nos gardiens d'immeubles.
Oui.
Et ils étaient là. Et au début, ils étaient là sans équipement de protection parce que
on
n'en avait pas.
Comme beaucoup en France,
Et ils ont assuré ce lien de proximité.
Donc vous avez senti une solidarité autant sur le terrain sein de votre...
Donc nos personnes de proximité, mais bien sûr toutes les équipes aussi, puisque il fallait soutenir, accompagner, se mobiliser sur l'accompagnement de nos locataires. Et puis donc ça a été aussi beaucoup de solidarité, de proximité, travail avec les associations comme j'ai pu l'évoquer. C'est une période aussi où nos locataires confinés, quand il fallait faire les cours aux enfants, tout le monde n'est pas équipé de matériel informatique. Donc, des agences qui ont pu imprimer des cours pour les enfants, qui ont travaillé avec des associations pour apporter des équipements informatiques. Voilà, donc c'est ça aussi notre métier de bailleur, c'est assurer ces solidarités de proximité. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment changé, parce qu'en fait, pour moi, la crise, c'est un révélateur, en fait.
Très bien. Ça a été plutôt positif, vous voulez dire, sur certains aspects en tout cas.
Oui, alors, on s'en serait tous bien passés de cette crise, mais je trouve que c'est un révélateur de notre potentiel d'initiative, de notre potentiel de créativité, de notre potentiel d'innovation, de notre potentiel d'adaptation.
Oui.
Donc ça, je trouve que c'était Jean-Louis Borloo qui ce matin sur une table ronde disait: vous bailleurs, vous devez vous réinventer. Voilà. Avec la crise sanitaire, vous devez vous réinventer. Et je pense que justement, on en est plus que capable, puisque en réalité, on l'a déjà démontré, et avec des capacités d'agilité très fortes.
Alors justement, pour finir, ce congrès a été riche, avec des moments forts, avec des annonces de Jean Castex, qui est venu annoncer des choses qui ont plu à certains et qui ont déplu à d'autres. Quelle a été, vous, votre réflexion par rapport à ces annonces ?
Alors, il y avait des attentes fortes.
Oui. Non,
voilà, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on évoquait la crise sanitaire, un peu conséquence de la crise sanitaire, mais je dirais aussi... Moi, je pense, si vous voulez, on est un tournant pour nos bailleurs sociaux, notamment pour produire du logement social demain. Conséquence de la crise sanitaire sur les modes d'habiter demain. Voilà, ça va être quoi le logement de demain ? On voit bien que les habitants veulent plus d'espace extérieur, de la nature en ville. Deuxième considérant important, c'est la loi climat. La sobriété foncière, donc comment on produit plus en artificialisant, moins. Ça, c'est un sacré... c'est un sacré enjeu. Et aujourd'hui, par rapport à toutes ces problématiques, on a vu après les élections municipales que les maires s'interrogeaient, de manière légitime, en disant comment on intègre ces conséquences de la crise sanitaire, ces conséquences de la loi climat. Mais de ce fait, les projets n'ont pas vraiment redémarré. Bon. Et donc... Et dans les blocages, il y avait aussi le sujet de la fiscalité que les maires pouvaient aussi mettre en avant. Donc c'est vrai que les annonces sur les compensations d'exonération de taxes foncières pour les collectivités, je pense que c'est extrêmement, extrêmement positif. On l'attendait. Il y a eu les travaux de la commission Rebsamen qui ont bien identifié en fait les différents blocages. Bon, la mobilisation du foncier public, même si c'est un sujet qui est souvent revenu, mais avec une volonté d'accélérer les choses. Donc, en tout cas, nous, on l'a vécu comme des annonces positives.
Très bien.
Notre groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des sujets sur lesquels il faut travailler. D'ailleurs, il y a un deuxième tome à venir de la commission Rebsamen.
Oui.
Donc voilà, il y a encore des éléments de blocage. Alors, nous intervenons sur les copropriétés dégradées. C'est un sujet, vous parliez de l'ANRU tout à l'heure, c'est un sujet qui reste quand même entier, très compliqué à traiter. On voit que là aussi, sur ces sujets-là, il faut pouvoir accélérer, il faut pouvoir lever des blocages. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel nous, on va avoir des demandes très concrètes à faire pour pouvoir lever. lever ces blocages. Donc voilà, oui, bien sûr qu'il y a encore, d'autres sujets à traiter.
Mais les choses avancent.
Mais vraiment, voilà, ouais. le contenu des annonces était riche, était attendu. Et donc, je pense qu'il faut savoir aussi, un moment, dire, c'est bien et on est content d'avoir entendu ces annonces.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bon retour. Vous avez terminé, là, je crois. Vous retournez
chez vous ? Écoutez, voilà, il y a encore la clôture. Hein, voilà,
exactement, il y a la clôture.
Voilà, la clôture. Et puis après, effectivement, retour, pour, on va dire, reprendre tous nos sujets qui nous passionnent et qu'on a évoqués.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Anne-Sophie Grave, présidente CDC Habitat. Hein. Merci beaucoup.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.